Bienvenue, bienvenue pour le 7e épisode de Déclencheur, le podcast qui parle photo. 3 segments dans cet épisode comme d'habitude, l'édito qui sera consacré à la promotion de Déclencheur, le segment principal où on va parler de l'éclairage en été et en particulier l'utilisation du flash intégré, et le 3e segment consacré à vos commentaires et vos réactions. Un complément visuel est disponible pour cet épisode. Il était placé dans le fil RSS il y a quelques jours, donc si vous êtes abonné, vous avez dû le recevoir automatiquement. Si vous n'êtes pas abonné, rendez-vous sur le site www.déclencheur.com pour y télécharger le complément visuel. Et profitez-en pour vous abonner pour à l'avenir recevoir automatiquement en fait les compléments visuels et les épisodes. Je rappelle que l'abonnement est complètement gratuit et qu'on offre 3 méthodes d'abonnement par email, par iTunes ou par RSS, donc vous avez vraiment le choix dans la manière dont vous voulez recevoir Déclencheur. C'est sur le même site, www.déclencheur.com, que vous pouvez laisser un commentaire, une réaction, un message d'encouragement, ou encore retrouver les liens dont on va parler dans cet épisode. Premier segment donc, l'édito. Un édito qui est consacré cette fois-ci à la promotion de Déclencheur. Tout d'abord, je voudrais prendre un instant pour vous remercier. Vous êtes tous les mois plus nombreux à écouter Déclencheur et la croissance est vraiment phénoménale. Vos commentaires, vos réactions, vos messages d'encouragement sont nombreux et m'encouragent vraiment à poursuivre dans le projet et à chercher vraiment à le développer. Donc merci pour votre soutien. Pour développer Déclencheur, j'ai fait imprimer des cartes promotionnelles, vous savez les cartes qu'on trouve sur les comptoirs des magasins, et j'ai besoin maintenant de votre aide pour distribuer en fait ces cartes. Je vous demande de vous rendre sur le site www.déclencheur.com, de suivre les instructions pour recevoir un ou plusieurs lots de cartes et de les distribuer dans les commerces, dans les clubs ou dans les lieux publics que vous fréquentez. Le but de la promo, c'est de faire connaître Déclencheur. Pourquoi faire de la promo? Pourquoi vouloir faire connaître Déclencheur? Parce que j'ai des projets d'épisodes que je ne peux pas réaliser sans faire grandir l'audience actuelle. Pour vous donner une idée, on a distribué sur le mois de juin plus de 700 épisodes de Déclencheur. Et en fait, Déclencheur, lors de la sortie du dernier épisode, était classé dans le top 100 des podcasts les plus écoutés en France par l'iTunes Music Store, qui est quand même une référence. Mais quand je quitte la podosphère, la blogosphère, et que je cherche des gens pour faire une interview, bien la première question qu'on me pose, c'est l'audience. Les personnes qui sont hors de la podosphère trouvent que l'audience actuelle n'est pas suffisante. J'ai présenté cette idée de promotion à plusieurs amis, à quelques confrères podcasteurs, et à chaque fois, une des questions qu'on m'a posées, c'est « Est-ce que tu veux faire grandir l'audience pour insérer de la publicité dans le podcast ?» Donc si vous posez la question, je vais répondre très clairement, la réponse est non. Je sais qu'on parle beaucoup de publicité dans différents podcasts, mais personnellement, je ne crois pas que pour un podcast comme Déclencheur, la publicité ait la moindre pertinence. Deuxièmement, le podcast n'a en fait encore que 4 mois, donc je n'ai encore aucun problème financier, il n'y a absolument pas besoin de s'embêter avec de la publicité, d'autant plus, comme je le rappelle, je n'y crois absolument pas. Je changerai peut-être d'avis à l'avenir, mais aujourd'hui, je n'ai aucun projet autour de la publicité. Non, le but vraiment est d'augmenter l'audience pour me permettre de produire des épisodes plus pertinents. Ok, vous êtes convaincu, vous voulez aider le podcast, concrètement, que devez-vous faire? Vous rendez sur www.déclencheur.com, vous suivez le lien sur carte et vous suivez les quelques petites instructions simples à l'écran, et vous déposez quelques lots de cartes dans les commerces, dans les clubs et dans les différents lieux publics que vous fréquentez. C'est tout. Ça ne devrait pas vous prendre plus de 10 minutes en tout, mais ça va vraiment faire une grosse différence. Si je devais faire appel à une agence spécialisée pour assurer la distribution de ces cartes, je serais vraiment dans un budget qui est inacceptable actuellement. Donc vous et vous seul pouvez faire la différence. Si vous avez une question ou un commentaire par rapport à cette idée de promotion, n'hésitez pas à utiliser justement les commentaires sur le site ou à m'adresser un message via la zone de contact du site. Deuxième segment consacré à la photo l'été et en particulier à l'utilisation de cet accessoire dont on se méfie souvent jusqu'à ce qu'on ait appris à le maîtriser, le flash. Pourquoi est-ce que je parle du flash en été? Mais parce que l'été, c'est la saison où il est le plus difficile de photographier. C'est un peu paradoxal parce que d'abord, c'est la saison où on a envie de photographier. On est en vacances, on a du temps, on s'amuse bien, la nature est belle, on fait des choses inhabituelles et évidemment, on veut immortaliser tout ça. Et en particulier, on fait pas mal de portraits. Or, l'été, et tout particulièrement pendant la journée d'été, les lumières sont très dures. Le contraste est très élevé et sur les photos, ça n'est absolument pas flatteur. Les portraits sont écrasés par le soleil. Lumière dure, ça veut dire que les ombres sont très tranchées, avec un bord, la transition entre l'ombre et la lumière, qui est très marquée, très très visible. C'est parfois un effet qu'on va rechercher pour donner une impression de force, une impression de fermeté, mais de façon générale, c'est jugé comme n'étant pas très flatteur. Le contraste élevé, et je l'explique parce que j'avoue que pendant plusieurs années, je me suis demandé ce que contraste voulait dire. C'est en fait la différence entre les zones éclairées et les zones sombres, les zones d'ombre. Quand le contraste est élevé, les ombres sont presque noires, on n'y voit aucun détail, alors que les zones éclairées sont très très claires. Qui plus est, l'été et en particulier en début d'après-midi, qui sont dans les heures où on photographie le plus, la lumière vient du haut du soleil, ce qui fait qu'elle n'est absolument pas flatteuse. La position des ombres sur le visage est vraiment peu flatteur. Et en particulier, les yeux sont généralement masqués par l'ombre, et ça c'est très grave dans un portrait, parce que l'œil c'est quand même le miroir de l'âme, comme on dit habituellement, et c'est vrai que si on ne voit pas l'œil sur un portrait, le portrait est beaucoup beaucoup moins flatteur. Si vous avez le complément visuel, regardez les premières photos, elles sont vraiment typiques de ce dont je parle. L'œil est masqué par l'ombre, le cou est très noir, on a vraiment de grandes ombres sur le sujet qui sont absolument pas flatteuses. J'ai en plus la photo extrême, qui est quand on met une casquette, et forcément le visage se retrouve complètement dans l'ombre. Alors du point de vue de l'éclairage, du point de vue de la photo, je dirais que la solution idéale c'est de ne pas photographier et d'attendre. Attendre la soirée, quand les contrastes seront beaucoup moins forts, ou attendre qu'un nuage vienne voiler le ciel et diffuser la lumière pour arriver de nouveau à des contrastes un peu moins forts. Idem au lever du soleil, donc vous pouvez aussi attendre le lendemain matin. Maintenant, ça c'est la vision purement photo. En pratique, il y a beaucoup de chances que le reste de la famille ne soit pas vraiment d'accord d'attendre. Une autre solution, c'est de chercher les zones ombragées, les zones qui sont protégées du soleil, là où en fait on n'aura pas ce contraste aussi important, mais ce n'est pas toujours possible. Donc les dernières solutions, c'est de faire avec et d'appliquer les différents conseils dont on va parler dans cet épisode pour vous permettre d'obtenir quand même des photos satisfaisantes. Alors en pratique, pour les photos d'été, il y a trois aspects auxquels il faut être particulièrement attentif. La lumière et la chaleur qui ne sont pas du tout confortables pour le sujet. La mesure correcte de l'exposition et les ombres. Je ne m'étendrai pas trop dans cet épisode sur les deux premiers aspects. Simplement, en matière de lumière et de chaleur, faites attention au fait que le modèle va cligner des yeux, il peut avoir l'air fatigué, tout ça c'est pas positif, donc protégez-le un petit peu du soleil, mettez un chapeau, mettez une casquette pour que le modèle soit confortable. Quant à la mesure correcte de l'exposition, c'est pas un problème qui est spécifique à l'été, et avec les appareils modernes équipés d'une mesure matricielle, d'une mesure multizone, c'est de moins en moins un problème. Faites quand même attention dans les milieux qui sont très réfléchissants comme les plages. Il y a beaucoup beaucoup de lumière et ça peut amener l'appareil à sous-exposer la photo en fait. Pour éviter tout problème, vérifiez une fois de temps en temps l'histogramme. On en avait parlé dans l'épisode 4. C'est le moyen le plus sûr, en tout cas si vous travaillez en numérique, pour vous garantir des photos correctement exposées. Adoptez une petite correction d'exposition si la photo n'est pas correctement exposée. Ou si votre appareil en est doté, placez sur le mode scène plage neige qui va en fait automatiquement corriger, en fait intégrer la correction d'exposition. Mais dans cet épisode, on va se concentrer sur le troisième problème, c'est-à-dire les ombres sur le sujet. Le problème, c'est pas qu'il y ait des ombres, il faut en fait des ombres. La photo, elle est en deux dimensions, le sujet était en trois dimensions. Ce qui va nous permettre de percevoir le relief dans la photo, c'est le jeu des ombres et de la lumière. Donc on a besoin des ombres. Mais si les ombres sont mal placées, si elles sont disgracieuses, eh bien le résultat ne sera pas très flatteur. Et fondamentalement, la difficulté l'été, c'est que notre œil, et c'est le problème récurrent en fait de la photo, notre œil est tellement plus efficace que les meilleurs appareils, des meilleures inventions, des meilleurs ingénieurs japonais. Tant les films que les capteurs sont capables de gérer des contrastes qui sont beaucoup beaucoup plus réduits que ce que l'œil est capable de voir. Et donc ça veut dire concrètement que nous, on va regarder un sujet et on va voir l'ombre, on va voir du détail dans l'ombre, on va voir la lumière, on va voir du détail dans la lumière. Et le sujet, on le verra comme étant fortement éclairé, mais il ne sera pas laid. Par contre, l'appareil photo, il ne va pas être capable de voir en fait les deux, ombre et lumière en même temps, et donc il va devoir choisir un des deux. Et de nouveau, si vous avez pris le complément visuel, regardez, vous avez un exemple où on a exposé cette fois-ci pour les ombres. Et le résultat, c'est qu'effectivement, l'ombre est plus belle, on voit l'œil. Mais les zones exposées à la lumière, les zones de haute lumière, elles sont complètement blanches. On n'a plus aucun détail dedans. Et en fait, on perd la matière, on perd là aussi le relief. Et le résultat n'est pas flatteur. Si à l'inverse, vous exposez pour les hautes lumières, comme on l'a déjà vu, le résultat, c'est que les ombres sont une tache noire, ce qui n'est pas non plus flatteur. Alors, on va regarder à quatre solutions. Retoucher la photo, utiliser le flash pour diminuer le contraste, qui est la solution que je recommande pour l'usage courant, utiliser un réflecteur si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la démarche, ou utiliser un diffuseur qui peut être aussi une alternative intéressante. Photoshop propose dans le menu Images réglages une option ton foncé, ton clair qui vous permet en manipulant deux curseurs de déboucher les ombres et de récupérer du détail de la vie dans les zones sous-exposées. Photoshop n'est pas le seul logiciel à proposer cette option. Le nom va varier d'un logiciel à l'autre, mais tous les logiciels de retouche d'image proposent une option pour éclairer des zones de l'image. Chez Nikon, par exemple, ça s'appelle D-Lighting et c'est intégré tant dans leur logiciel d'édition d'image Capture, mais également en fait en standard sur certains de leurs compacts. Que penser de ces corrections? Si la zone d'ombre n'était pas trop marquée, s'il y avait un peu trop d'ombre, mais pas trop marquée, trop exagérée, c'est une formule acceptable. Si par contre vous étiez sous un soleil vraiment écrasant, eh bien en fait l'ombre va être trop forte et en essayant de récupérer du détail dedans, vous allez surtout récupérer du bruit. Ce qui va pas être du tout flatteur non plus. Bon, la technique a le mérite d'exister, elle va permettre de récupérer le coup si on a un peu foiré son exposition, mais c'est pas la technique que je recommanderais, et particulièrement si le soleil est très présent. La deuxième solution, et la plus pratique, c'est le flash. Je sais que le flash n'a pas toujours très bonne réputation, et à juste titre, parce que en particulier le flash intégré peut vraiment ruiner ce qui aurait été par ailleurs une très belle photo. Personnellement, pendant des années, j'ai hésité à utiliser le flash parce que j'avais pas très bien compris comment ça fonctionnait. Mais du jour où j'ai compris comment le flash fonctionnait, j'ai plus hésité à m'en servir quand c'était nécessaire et je crois que la qualité de mes photos en a vraiment bénéficié. A priori, on pense pas au flash l'été. Ça paraît pas vraiment intuitif. On se dit que le flash, c'est pour quand il n'y a pas assez de lumière. Or, de la lumière, il y en a. Oui, il y en a. Mais il y en a sur les zones de haute lumière. Les ombres n'ont pas assez de lumière. Et donc c'est pour ça qu'on va utiliser le flash pour remettre de la lumière dans les ombres et les ramener en fait à un niveau de luminosité qui est suffisamment proche des hautes lumières pour que le contraste soit assez faible. Parce que le problème, je le rappelle, c'est un problème de contraste. L'appareil photo n'est pas capable de gérer des contrastes trop importants. Et donc si on dose bien l'éclair du flash, on ne va pas supprimer l'ombre, mais on va l'éclaircir de manière à ramener du détail dedans, de manière à voir l'œil, de manière à avoir une photo qui soit flatteuse et agréable. Une différence de luminosité va persister, il y aura encore une ombre, mais elle sera dans des niveaux qui sont acceptables. Et comme l'appareil photo a tendance, puisqu'il gère mal les contrastes importants, à exagérer l'ombre, à exagérer le contraste, eh bien le résultat c'est que la photo apparaîtra exactement comme le sujet apparaissait à notre œil. Donc on aura, par ce petit tour de passe-passe, en fait à ramener la photo à ce que notre œil avait vu. Tout seul, l'appareil ne va pas utiliser le flash. Il voit la lumière, il croit qu'il y a assez de lumière, il ne va pas l'utiliser. Donc vous devez le forcer à activer le flash. Et là, je vous renvoie au mode d'emploi de votre appareil. Dans les grandes lignes, généralement, il faut appuyer sur un bouton, aller dans un menu ou tourner une molette pour faire apparaître un petit éclair. Sur les réflexes, généralement, il faut sortir le flash de son logement. Dès qu'il est sorti, il s'active. Si vous avez le complément visuel sur les yeux, bien vous pouvez voir une photo qui est prise dans les mêmes conditions, mais avec le flash pour rééclairer les ombres, et vous voyez qu'effectivement, on a une photo qui est beaucoup plus équilibrée. On a plus ces contrastes importants et ces zones noires, et le résultat est à mon sens beaucoup beaucoup plus flatteur. Je m'arrête un instant sur le principe technique qui se trouve derrière, parce que c'est un principe qu'on va retrouver dans toute la photo au flash. Et c'est le principe de la double exposition. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois qu'on travaille au flash, on expose deux fois. On expose une fois pour les lumières ambiantes et une fois avec le flash. Évidemment, quand il fait noir complètement, l'exposition aux lumières ambiantes elle est nulle et c'est le flash qui devient prépondérant. Mais dans ces cas de figure où on a de la lumière ambiante, le soleil et le flash, eh bien on va vraiment exposer deux fois. En simplifiant un petit peu, on peut dire que dans ce cas de figure, la lumière ambiante expose les hautes lumières, donc les zones qui sont blanches, et le flash va venir exposer uniquement les ombres. Évidemment, il s'ajoute aux hautes lumières, mais son impact va être négligeable à ce niveau-là. Les appareils font en fait deux mesures. Ils mesurent l'exposition globale, qui est la somme de la lumière ambiante et l'exposition flash, et ils mesurent le flash séparément. Et sur les modèles experts, on peut doser la ratio entre les deux en contrôlant l'exposition flash indépendamment de l'exposition de la lumière ambiante. Et si votre appareil en est équipé, vous avez en fait deux corrections d'exposition. La correction d'exposition globale, la correction d'exposition du flash. La correction d'exposition du flash, dans ce cas-ci, on va réduire l'exposition à moins 1.6, moins 2. Parce que le but, c'est quand même de conserver des ombres. Donc on veut que les zones qui sont éclairées par le flash soient plus sombres que la lumière ambiante. Et comme l'appareil va avoir tendance à exagérer ce contraste, eh bien le résultat sera l'image qui va nous paraître naturelle. une mise en garde, je parle bien ici de la correction d'exposition du flash et pas de la correction d'exposition globale. Si votre appareil n'a pas les deux corrections d'exposition séparées, ne modifiez pas la correction d'exposition globale, sinon vous allez sous-exposer la photo. Si votre appareil n'est pas équipé de ce réglage qui permet de contrôler l'exposition au flash indépendamment de l'exposition ambiante, l'astuce est de se reculer. En vous reculant, vous allez diminuer l'efficacité du flash et donc diminuer l'atténuation des ombres. À l'inverse, si vous voulez le remonter, vous vous rapprochez et vous jouez du zoom pour compenser l'effet sur le cadrage. Quand on pense au flash, on pense au risque d'avoir les yeux rouges. Le risque ici est très très faible parce que comme il y a beaucoup de lumière ambiante, la pupille est déjà très fermée. Néanmoins, si vous constatiez sur une photo un peu d'yeux rouges, vous pouvez facilement le corriger avec un logiciel d'édition d'image et de nouveau, comparativement, le résultat sera bien meilleur de corriger un petit peu les yeux rouges que d'essayer de récupérer les ombres dans un logiciel de manipulation d'image. Pour photographier en extérieur l'été, le flash est vraiment la solution qualitative et pratique. Le gros côté pratique, évidemment, c'est que presque tous les appareils, sauf les modèles professionnels, sont équipés d'un flash intégré. Et donc, ça veut dire que vous avez toujours le flash nécessaire à portée de la main. Si vous n'aimez pas travailler au flash, il y a une troisième solution qui est d'utiliser un réflecteur. Alors un réflecteur, c'est en fait une surface blanche ou une surface réfléchissante qu'on va utiliser pour renvoyer de la lumière dans les ombres. Donc le but est exactement le même qu'au flash, si ce n'est qu'au lieu d'utiliser une source de lumière artificielle, on va renvoyer la lumière du soleil dans les ombres pour en fait diminuer le contraste entre les zones claires et les zones d'ombre. Concrètement, n'importe quelle surface blanche constitue un bon réflecteur. Une feuille de papier, un morceau de frigolite, un t-shirt sont tous d'excellents réflecteurs qui ne coûtent pas cher et qui sont assez faciles à emporter. La seule règle à retenir, c'est que le réflecteur doit avoir à peu près la même taille que le sujet. Donc si vous faites un visage, eh bien une feuille de papier A4 qui a à peu près la même taille qu'un visage va convenir parfaitement. Par contre, si vous faites un portrait en pied, eh bien il vous faut un réflecteur de grande taille, par exemple une robe de mariée. Comme on n'a pas toujours à portée de main une mariée, on vend en boutique photo des réflecteurs pliables qui ont l'avantage, une fois dépliés, d'avoir exactement la même taille que la mariée, mais une fois repliés, de tenir dans un espace beaucoup moins encombrant. Ces réflecteurs sont disponibles dans différentes finitions. Blanc, qui est la finition par défaut. Argenté, métallisé, pour envoyer plus de lumière et donc réduire l'impact des ombres. Doré, pour donner une lumière un petit peu plus chaude, que personnellement je trouve assez déplaisante, sauf pour quelques photos très typées. Donc le choix est vraiment personnel en fonction du sujet que vous voulez traiter. Si vous ne voulez pas acheter un réflecteur professionnel, vous faites la même chose en couvrant une feuille de frigolite d'aluminium ou en utilisant en fait un plat à l'argenterie qui convient très bien. Le seul avantage des réflecteurs professionnels, c'est pas la qualité de la lumière qu'ils donnent, mais c'est le fait qu'ils peuvent être repliés pour le transport. Pour obtenir le plus d'effet avec le réflecteur, il faut l'incliner à 45 degrés. Mais le gros avantage du réflecteur par rapport au flash, par exemple, c'est que vous voyez en temps réel ce qui se passe. Donc vous pouvez incliner plus ou moins le réflecteur, vous regardez par le viseur pour décider du moment optimum, du moment où les ombres sont atténuées juste comme vous le souhaitez, et vous pouvez alors prendre la photo. L'inconvénient du réflecteur, c'est qu'il faut le mettre en place et il faut le tenir. Donc il ne convient pas à tous les sujets. Si vous faites un visage, vous pouvez demander à votre modèle de le tenir en dessous de son visage. Si par contre vous faites une des enfants en train de courir, il y a peu de chances qu'il soit d'accord de tenir votre réflecteur. En fonction du sujet et de la photo, on peut également poser le réflecteur sur une table, demander l'aide d'un ami, le poser sur le sol ou utiliser des pieds photo avec un bras qui va en fait tenir le réflecteur, permet de le poser et de l'incliner de façon parfaite. Dernière solution, le diffuseur. Le principe est très simple. Regardez le soleil sans nuages. Vous avez des ombres très dures. Dès qu'un nuage s'intercale, voile le ciel, les ombres deviennent beaucoup plus douces. C'est pour ça qu'en automne et au printemps, en fait, les ombres sont plus douces qu'en été. Un diffuseur, c'est un petit nuage portable qui va vous permettre d'obtenir le même effet de diffusion, mais là où vous le voulez et quand vous le souhaitez. Dans la plupart des cas, c'est le diffuseur ou éventuellement le diffuseur complété d'un réflecteur qui donnera les résultats les plus qualitatifs parce qu'il vous permet, en plein soleil de midi, de recréer un éclairage qui ressemble à l'éclairage de la soirée. Concrètement, un diffuseur, c'est un morceau de tissu ou un morceau de papier calque translucide. Et on le place donc entre la source lumineuse et le sujet, puisque le but ici n'est pas de réfléchir la lumière, mais bien de la diffuser. De nouveau, il y a une règle technique derrière le fonctionnement du diffuseur. Le principe est que plus la source lumineuse est grande vue du sujet, plus les ombres seront douces. C'est-à-dire, plus la transition entre l'ombre et la lumière sera large et diffuse. Et pour la plupart des sujets, plus elle est douce, plus c'est flatteur. Alors vous allez dire, mais le soleil est une source lumineuse gigantesque. Elle est gigantesque, mais vue de votre sujet, elle est très petite, c'est un point dans le ciel. Un nuage, comparativement, est beaucoup plus grand, et donc va donner un résultat beaucoup plus diffus. Le réflecteur comparé au soleil, il est très 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 petit. Mais comme on le place près du sujet, il apparaît beaucoup beaucoup plus grand que le soleil. Et donc il constitue une source lumineuse qui est beaucoup beaucoup plus large que le soleil. Notez que c'est exactement le même principe qu'on utilise en studio. Quand on met un parapluie ou quand on met une boîte à lumière, le but c'est d'agrandir la source lumineuse et donc que les ombres soient plus douces sur le sujet. Quand on est avec un flash de reportage et qu'on l'utilise en indirect, qu'on l'envoie sur le plafond devient la source lumineuse et donc la petite source lumineuse du flash est élargie à tout le plafond, ce qui donne des ombres beaucoup plus douces. À proprement parler, le diffuseur ne va pas en fait diminuer le contraste, puisqu'il va laisser des zones d'ombre qui seront aussi marquées que les ondes de lumière. Mais comme la transition sera beaucoup plus douce, le résultat sera beaucoup plus flatteur. Et généralement, ça suffit pour retrouver du détail dans toutes les ondes dans lesquelles on voulait avoir du détail. Mais parfois, on veut à la fois adoucir et diminuer les ombres. Bien, dans ce cas-là, on combine deux techniques, un diffuseur et un réflecteur, par exemple. De toutes les techniques qu'on a vues, le diffuseur est la plus délicate à mettre en œuvre. Parce qu'il faut quelqu'un ou un pied pour tenir le diffuseur. Le modèle ne peut jamais le tenir lui-même. Pour les photos du complément visuel, j'ai utilisé un combiné à la fois diffuseur et réflecteur. En fait, le principe, c'est qu'on a un disque qui est un diffuseur flexible. Comme j'expliquais tout à l'heure, on peut le replier, ce qui est pratique. Et ce disque, on le glisse dans une pochette qui constitue le réflecteur. Donc, si on a besoin du réflecteur, on utilise le disque dans sa pochette. Si on a besoin du diffuseur, on enlève la pochette. Qui plus est, ces pochettes sont disponibles dans différentes finitions, blanc, or, argent ou or argent. Comme j'expliquais tout à l'heure, ça influence sur la qualité de la lumière qui est renvoyée sur le sujet. Les réflecteurs sont vendus en plusieurs tailles, puisqu'on va choisir en fait le réflecteur en fonction de la taille du sujet. Petit pour un portrait serré, mais jusqu'à une taille humaine pour un portrait en pied. Le diffuseur, même principe, plus il est grand, plus les ombres seront douces. Donc la solution est qualitative, mais quand même beaucoup moins pratique que le flash quand il faut les emporter en bagage. C'est pour ça que sans hésitation, je recommande le flash comme étant la formule la plus simple, la plus pratique pour photographier. Je conclue cet épisode en attirant votre attention sur le fait que derrière les techniques très pratiques dont on a parlé dans cet épisode, se trouvent en fait des principes universels en photo. La double exposition au flash, le fait que plus la source lumineuse est grande vue du sujet, plus les ombres seront douces, et le fait que l'appareil a une capacité à gérer les contrastes très limités. Troisième segment, vos commentaires et vos réactions. Pour laisser un commentaire, une suggestion ou un message d'encouragement, vous pouvez vous rendre sur www.déclencheur.com. Vous pouvez laisser un message texte complètement gratuit. Une boîte vocale est également à votre disposition. Elle est pratique puisqu'il ne faut pas de matériel d'enregistrement particulier. Il suffit de téléphoner. Et pour ce faire, j'utilise les services de la société Voxup. En France, vous faites le 08 92 23 03 22 à 34 centimes d'euros la minute et vous devrez saisir le code service 8208. En Belgique, vous faites le 0902 88 128 à 74 centimes d'euros la minute et vous devrez saisir le code service 8208. En Suisse, vous faites le 0901 701 705 à 2,50 francs la minute et vous devrez saisir le code service 8208. Attention, vous devez confirmer votre code volontaire vocal avant de raccrocher, donc écoutez bien les instructions. Les commentaires vocaux seront repris sur le site web et repris dans le podcast. Les commentaires reçus ce mois-ci, tout d'abord je commence par ce qui n'est pas un commentaire. Le pod auditeur, Monsieur Vertigo, a été interviewé par France Inter pour parler de ses podcasts préférés et Déclencheur était dans la liste. L'interview est en ligne sur son site, vous verrez, c'est très bien fait. C'est un petit panorama du podcast actuel. Merci Monsieur Vertigo. Les commentaires reçus sur le site, tout d'abord différents messages d'encouragement. Encore une fois, merci pour eux. Ça me fait vraiment très très plaisir. J'ai reçu un message de Ramdam qui apprécie les explications complètes et la présentation soignée. Un message de Vincent qui apprécie le travail. Un message de Pierre BGT qui me dit passer maintenant suite à son écoute du podcast plus de temps en post-production et en finale, il est content du résultat. Merci à vous, merci de me laisser ces messages d'encouragement, ça me motive à continuer mon travail. Jean-Michel a laissé un message pour dire qu'il apprécie la qualité des épisodes et qu'il a été très positivement surpris par le sujet sur les trépieds. Je dois dire que de mon point de vue, ça a été un des épisodes les plus amusants à réaliser et je suis content de voir que les commentaires sont assez positifs et qu'ils plaisent. Jean-Michel me parle également de l'HDR, Light Dynamic Range, qui est une fonction de Photoshop. J'ai eu un petit échange de courriel avec lui parce que je dois avouer que j'ai essayé d'utiliser l'HDR quand il est apparu dans Photoshop et j'ai pas été très satisfait de mes résultats. Jean-Michel a promis de préparer un petit dossier et on verra si on peut faire une interview et un épisode de Déclencheur sur le sujet. Jean-Christophe du site Nikon Passion nous dit se délecter du podcast. Il a eu la gentillesse de laisser un commentaire sur Nikon Passion pour présenter Déclencheur. Ça m'a fait très plaisir puisque je suis moi-même nikoniste. En réponse à la question que j'avais posée il y a quelques épisodes sur comment gérer la charge de travail, il me suggère de diminuer tout simplement le rythme des épisodes. J'ai entendu tous vos commentaires sur le sujet et après pas mal de réflexions en tenant compte de tous vos avis, je crois que c'est effectivement la formule que je vais suivre. Donc vous l'avez constaté, cet épisode est apparu 3 semaines après l'épisode précédent. À l'avenir, quand je verrai que la charge de travail est trop élevée pour me permettre de produire un épisode en 2 semaines, eh bien je prendrai 3 semaines pour cet épisode. Ce sera sans doute le cas chaque fois qu'il faudra produire un complément visuel. Matt m'adresse un grand bravo pour le podcast et dit avoir eu un peu de mal avec les exercices pédagogiques sur le site de Rendez-vous Création. Alors 2 éléments de réponse à ça. Premièrement, j'ai constaté que pour avoir une bonne note dans le logiciel, il faut cadrer sur le sujet que le logiciel a retenu. Et ce sujet, en fait, il vous le met en surligné un petit peu à l'aide d'un cadre, mais c'est pas très bien expliqué dans l'interface cet aspect. Je me suis fait plusieurs fois piéger avec un cadrage qui appliquait correctement la règle, mais qui était mal noté parce que j'avais pas cadré sur le sujet que le logiciel identifiait. Deuxièmement, il s'agissait d'une introduction générale à ces sujets. On les revisitera, on ira plus en profondeur, on donnera des conseils supplémentaires. Nicolas s'est d'ailleurs proposé de revenir dans le podcast pour effectivement pouvoir poursuivre sur ces thèmes. Dans un des prochains épisodes, je referai un sondage pour décider des thèmes à traiter à l'avenir et vous verrez si vous souhaitez réapprofondir un de ces sujets. Renaud Moisson m'a laissé 2 commentaires. Dans le premier, en réponse à cette question sur la charge de travail, il suggère de s'appuyer sur des experts, sur des chroniqueurs extérieurs, pour en fait réduire ma charge de travail. Sincèrement, mon expérience jusqu'à présent avec les interviews demande beaucoup de préparation, notamment parce qu'il faut convaincre la personne de venir participer au podcast. Et là, comme je l'expliquais dans l'édito, vous pouvez vraiment faire une grosse différence en la matière, je compte sur vous. Ceci étant, si vous avez un sujet sur lequel vous souhaitez partager, je vous cède volontiers le micro et on organise une interview. Renaud pose également la question des podcasts enrichis, donc ces podcasts en format AAC, qui contiennent à la fois le son, des photos et un chapitrage. Pourquoi ne pas les utiliser? Sauf erreur de ma part, pour lire les formats AAC sur un baladeur, il faut soit un iPod, soit une PlayStation portable. Je sais que certains d'entre vous ont des baladeurs qui ne sont pas capables de lire ce format, donc je serai obligé de produire 2 fils, un fil MP3, un fil AAC. Produire 2 fois les fichiers, c'est un surcroît de travail et à l'heure actuelle, je ne souhaite pas m'engager dans cette voie-là. Jean-Luc a laissé un commentaire pour dire qu'il trouve que les émissions deviennent plus dynamiques et qu'on y apprend toujours des choses fort intéressantes. Il demande également un petit peu plus d'humour dans le traitement des sujets. Je vais voir ce que je peux faire. Gérard T m'adresse un grand bravo pour l'initiative. Il apprécie le contenu, le ton et la voix, mais il déteste visiblement la musique de fond. Les avis divergent en finale sur cette musique. J'ai réécouté plusieurs épisodes anciens et je crois que le niveau de la musique est parfois un peu fort par rapport au son. J'ai donc décidé pour le moment de continuer à produire des épisodes sans musique. Merci à tous pour ces commentaires et ces différents mots d'encouragement. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, visitez www.déclencheur.com pour laisser un commentaire ou pour vous abonner. Je rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Le prochain épisode de Déclencheur sera consacré à l'exposition. Mode automatique, mode scène et mode expert. Bonne photo, profitez bien de l'été.